Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient dans un instant. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous, abusez du téléphone. Le standard reste ouvert toute la journée. 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, nous jouerons les prolongations. Nous reviendrons sur les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, des huitièmes qui ont rebattu les cartes de la compétition. Que des surprises. L'Égypte, grande favorite, a été éliminée par l'Afrique du Sud. Le Cameroun, tenant du titre, s'est incliné face au Nigeria. Le Bénin, lui, a réussi l'exploit de sortir le Maroc. Et Madagascar, évidemment, qui a fait sensation en éliminant la RDC. Vos commentaires nous intéressent et on attend également vos pronostics. Les affiches des quarts de finale, nous les connaissons depuis hier soir. Le tableau est désormais complet avec notamment un Côte d'Ivoire-Algérie. L'Algérie va-t-elle confirmer son statut de favori? On vous attend au standard 33 9 693 693 70. Mais d'abord, donc, vos questions. Des questions sur la ZLEC. On en a beaucoup parlé ces deux derniers jours. La zone de libre-échange continental. Balafoya, bonjour.
Bonjour Juan. Bienvenue. Bonjour à l'équipe de la RFI.
Merci de nous appeler de Conakry en Guinée. Nous vous écoutons.
Ok, Juan. Dans le cadre du sommet de l'Union africaine, le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, a finalement signé l'accord de ratification de la ZLEC. Le Nigeria a mis plus de un an avant d'accepter de signer l'accord. Pourquoi était-il réticent?
Ah, c'est vrai. Il a fallu attendre dimanche devant ses homologues africains pour que le président Bouhari signe cet accord. Il a été applaudi d'ailleurs par ses homologues présents au Palais des Congrès de Niamey. Bonjour Olivier Roger.
Bonjour Juan, bonjour Balafoya.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service économie de RFI. Pourquoi a-t-il fallu un an à cette économie puissante sur le continent africain pour accepter de rejoindre le marché commun?
Bah d'abord parce que le président Bouhari ne le voulait pas, il était assez sceptique au début. Il faut savoir que depuis l'époque du président Obasanjo, le Nigeria avait renoué avec une certaine forme de protectionnisme. La première économie du continent considère en effet qu'elle ne peut pas se développer sans protéger ses marchés, et en particulier ses marchés sensibles. Par exemple, le Nigeria, qui vise l'autosuffisance alimentaire en matière rizicole, a introduit des taxes de plus de 80% sur les importations de riz afin de favoriser ses propres producteurs qui, lorsqu'ils seront devenus suffisamment forts, eh bien pourront affronter une concurrence étrangère et internationale. En mars 2018, lorsque la ZLEC est lancée par l'Union africaine, le président Bouhari refuse donc dans un premier temps d'y adhérer. Pour lui, pour ses syndicats et pour les organisations patronales, c'est trop dangereux. Il faut se souvenir que les Nigérians ont été traumatisés par la perte de leur industrie textile au début des années 2000, lorsque l'OMC a libéralisé le secteur et permis au textile chinois d'envahir le monde avec des produits à bon marché. Et le président Bouhari ne veut pas que ce... Je vous en prie, Juan. Ne veut pas que ça recommence dans d'autres secteurs. Il a donc consulté ses entreprises, commandé des études d'impact afin d'évaluer les risques d'une libéralisation des produits sur l'emploi et l'activité économique. Il a surtout compris quelque chose. Il a compris ensuite que la ZLEC était un chantier en construction dont les règles sont encore à définir. Et c'est ce qui, au fil de l'année 2018-2019, lui a permis de changer d'opinion et le décider à adhérer. Car c'est maintenant, en fait, que commencent les discussions techniques sur, par exemple, les listes de produits qui seront exclus de cette libéralisation, de cette suppression des barrières douanières. Le Nigeria pourra toujours continuer à protéger certaines filières et surtout, il aura pour cela plusieurs années, puisque on estime qu'il y aura entre 5 et 10 ans d'adaptation aux économies pour progresser avant cette ouverture des marchés. En fait, Mohamedou Bouhari a compris une règle essentielle. Il vaut mieux être être dans le bateau et tenir le gouvernail plutôt que de rester à quai et voir les autres prendre le large.
Oui, on rappelle que 54 pays africains ont rejoint la ZLEC. Il manque toujours l'Érythrée et 27 parlements nationaux ont déjà ratifié cet accord. Et il fallait 22 ratifications pour que la ZLEC puisse véritablement entrer en vigueur. Vous aviez une autre question, Balafoya?
Oui, quel avantage pourrait tirer le Nigeria de son intégration à la ZLEC?
Olivier Roger.
Alors la ZLEC en fait est une promesse d'intégration entre les pays du continent, mais c'est aussi un processus qui, s'il est mal conduit, pourrait entraîner des déséquilibres. On sait d'ores et déjà que ceux qui vont profiter de la ZLEC, ce sont les grandes puissances du continent. Celles qui ont des produits à exporter, elles seront sans doute gagnantes par rapport à ceux qui n'ont que des matières premières. On peut citer par exemple le Tchad qui ne vend finalement que du pétrole. Un pays comme le Nigeria dispose de secteurs industriels développé à la fois dans la mécanique, l'industrie légère, les biens de consommation. Et bien évidemment, on estime que ce pays pourrait, à terme, être un des grands gagnants de cette libéralisation sur le continent. À condition, bien évidemment, que son économie s'adapte et que ces secteurs industriels qui sont encore un petit peu fragiles se renforcent. C'est pour ça que le Nigeria réclame ce temps d'adaptation. De plus, le Nigeria est une puissance en soi. C'est, on le sait, la plus grande économie du continent, c'est un marché gigantesque qui a des capacités de développement très importantes, mais pour supporter une concurrence africaine et internationale, il va falloir une politique attractive vis-à-vis des investisseurs étrangers, un petit peu comme ce que font les Éthiopiens avec les Chinois depuis quelques années, qui sont ouverts aux investissements. Les Égyptiens aussi font la même chose. Alors, le Nigeria pourra gagner à condition de pouvoir adapter son économie et de s'ouvrir sans doute aux capitaux étrangers.
L'analyse d'Olivier Roger qui est donc venu répondre ce matin à Balafoya qui nous appelait de Conakry, 10h17 à Paris. D'autres questions, des questions maintenant sur la restitution du patrimoine africain pillé pendant la colonisation française. Rappelez-vous, c'était l'un des engagements pris par Emmanuel Macron lors de son discours à Ouagadougou. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin, nous vous écoutons.
Oui, le ministre de la Culture français voulait un retour rapide des 26 œuvres d'art qui doivent être restituées au Bénin avant même que la loi sur la restitution ne soit votée. Mmh. Les œuvres d'art peuvent-elles vraiment retourner au Bénin avant le vote de cette loi?
Ah, c'est une très bonne question que vous posez, Gilles. Effectivement, la semaine dernière, le ministre français de la Culture, Franck Riester, a annoncé que Paris n'attendrait pas l'adoption d'une loi pour restituer ce patrimoine au Bénin. Tancrède Chambreau, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour,
merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. On a tous entendu au moment de la restitution, il y a 7 ou 8 mois, d'une analyse, notamment Selwyn Sarr, Bénédicte Savoie, qui donnait leur réflexion au président Macron. On a tous entendu dire qu'il fallait absolument une loi pour restituer ce patrimoine africain aux pays concernés. Ça veut dire quoi, qu'il est possible finalement de contourner la loi?
Alors oui, il y a deux cas de figure. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par retourner. Si on parle d'une restitution officielle de ces 26 œuvres d'art au Bénin avant le vote d'une loi au Parlement, c'est impossible. Les œuvres qui appartiennent aux musées nationaux, et dans le cas des œuvres béninoises au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, font partie du patrimoine public. Du domaine public, pardon, c'est inscrit dans la loi et faisant partie donc de ce domaine public, elles sont à ce titre inaliénables, c'est simple, on ne peut pas les céder. Il n'existe qu'une procédure qui permet de les restituer, il faut les déclasser. Alors c'est un mode de fonctionnement qui a déjà été utilisé pour des situations similaires, avec des lois spéciales par exemple pour la Vénus d'Hottentote en 2002 avec l'Afrique du Sud. Il faut dans ce cas attendre un vote et une décision définitive de la part du Parlement pour attendre un retour officiel. Maintenant, si l'on parle d'un retour et qu'il s'agit juste de voir les statues du roi d'Abomey au Bénin, il existe une seconde alternative et c'est celle qui semble être privilégiée si l'on en croit le discours de Franck Riester jeudi dernier et les avocats spécialisés du droit du marché de l'art que nous avons pu contacter. Pour contourner cet obstacle juridique, et on parle bien d'un obstacle juridique puisque le processus de déclassement peut parfois prendre beaucoup de temps, le gouvernement peut avoir recours à des prêts à très long terme. Et les statues donc peuvent se retrouver dans les musées béninois sans que le gouvernement français cesse de conserver ses droits sur ses œuvres d'art. Ces prêts ne nécessite pas d'inscription dans la loi et contourne donc le processus législatif qui peut parfois être lent et laborieux. Cela nécessite un accord entre les gouvernements pour clarifier les termes du prêt. Mais pour autant, on ne se rapproche pas plus d'un retour. Hein. C'est là que cela peut prendre beaucoup de temps, car ces prêts ne peuvent être acceptés que si la structure qui recevrait les œuvres, c'est-à-dire le musée d'Abomey, respecte certains critères en termes de conservation, comme une climatisation adéquate, par exemple. Les garanties sont fixées dans la loi française sur les exportations d'œuvres d'art, dont les musées français ne peuvent pas vraiment s'affranchir, puisque le but de ces critères est de s'assurer que les œuvres seront exposées dans un lieu qui permette leur conservation. Et si les musées qui doivent recevoir ces œuvres ne sont pas jugés au niveau, le prêt est remis à plus tard.
Et cette obligation de la part des musées qui souhaiteraient accueillir ces œuvres, est-ce que ce n'est pas finalement un moyen pour les conservateurs de garder ces œuvres le plus longtemps possible en France ?
Bah, c'est ce qu'on avait pu entendre à l'époque de l'annonce d'Emmanuel Macron, lorsqu'il avait exprimé sa volonté de restituer ces 26 œuvres d'art. Un certain nombre de conservateurs s'étaient exprimés publiquement pour dire que finalement les musées béninois n'avaient pas les capacités d'accueillir ces œuvres et de véritablement les conserver. Mais cette crainte n'est pas seulement partagée par les collectionneurs français. Côté béninois, José Plia, le directeur de la générale de l'Agence des promotions des patrimoines, avait également fait part, rappelez-vous, sur notre antenne jeudi dernier, de son envie de ne pas aller trop vite. Il affirmait que le musée était encore en construction et qu'il serait prêt à accueillir les œuvres d'art d'ici 2 ans.
D'ici 2 ans, donc. Est-ce que ces prêts qui sont temporaires, on sait que la durée est fixée à l'avance, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un prêt de ces œuvres au Bénin puisse être converti d'une certaine façon en restitution ? C'est un peu technique, un peu compliqué, mais est-ce que c'est possible ?
Alors, convertir exactement non, mais le prêt que la France peut faire au Bénin permettrait d'avoir un retour de ses œuvres dans le pays en attendant une restitution officielle, donc avec une proclamation de loi, lorsqu'elle sera votée au Parlement. Une façon de patienter un peu en attendant un retour définitif.
Voilà, tout ça a été un peu technique, un peu juridique, mais c'était votre question, Gilles. On me dit que vous avez une dernière. Rapidement alors.
Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'en dehors des 26 œuvres d'art, le Bénin envisage-t-il de faire d'autres demandes de restitution ?
Tancrède Chambreau.
Alors, à notre connaissance, non, mais pour qu'il le fasse sous le même statut exactement, il faudrait s'assurer que les autres œuvres aient été véritablement des prises de guerre. C'est un processus qui pourrait prendre beaucoup de temps si c'est le cas, mais Franck Riester a quand même annoncé dans son discours jeudi que la France étudierait toutes les demandes de restitution des autres pays africains, le Bénin en faisant partie.
À suivre donc, Gilles, bonne journée à Cotonou. Merci Tancrède Chambreau du service Afrique de RFI d'être venu quelques minutes dans ce studio. Des questions maintenant sur le Soudan. Après l'accord conclu vendredi entre les civils et les militaires. Bonjour Hamid.
Bonjour Juan Gomez.
Merci de nous appeler d'Abéché. On vous écoute.
Alors, après plusieurs semaines de blocage, les conseils militaires et les représentants civils sont parvenus à un accord. Une instance partagée entre civils et militaires dirigera la transition. Alors, comment expliquer que cet accord ait été trouvé 2 jours après la reprise des pourparlers ? Et quelle partie a fait plus de compromis ?
Alors, c'est vrai que cet accord prévoit une période de transition de plus de 3 ans, ainsi que la création d'un conseil souverain avec une présidence tournante. On en parle avec Marc Lavergne, spécialiste du Soudan, directeur de recherche au CNRS. Bonjour Marc Lavergne.
Bonjour.
Alors, on comprend la question d'Hamid. Les négociations avaient été rompues au mois de mai. Ensuite, il y a eu au début du mois de juin, on s'en souvient, cette dispersion meurtrière du sitting des manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum. Bon, les deux camps, l'opposition et les militaires et les civils décident de reprendre les négociations. Et là, en 2 jours, tout le monde s'entend et on arrive à ce compromis, à cet accord. Comment peut-on l'expliquer ?
Oui, je crois que d'abord, il y a eu cette période de répression depuis le 3 juin qui a fait réfléchir un peu tout le monde sur la nécessité de faire des accords, un accord à minima. Et puis, je crois que déjà une bonne partie de ce projet avait été mis sur pied avant le 3 juin, c'est-à-dire que le partage des postes au sein de ce conseil de transition avait déjà été peu ou prou établi avec un accord qui faisait la balance égale entre les civils et les militaires. Alors, l'accord en 2 jours, je pense qu'il a été facilité par des pressions extérieures. Ouais. Je crois qu'il y a eu l'intervention de Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, et derrière lui de l'Union africaine, qui ont fait réfléchir les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui soutiennent les militaires. Et puis, il y a sur la scène intérieure la présence des forces de déploiement rapide, hein, les Rapid Support Forces, comme on dit en anglais, qui sont venus s'installer à Khartoum, qui sont presque une puissance occupante aujourd'hui dans la ville et qui font pression sur les militaires au moins autant que sur les civils. Ce sont des milices tribales, donc ils ont été ramenés du Darfour, hein, et Hamid, oui, qui est d'habitude voisin de cette région, est bien au courant sans doute de cette situation. On a aujourd'hui cette sorte de force d'occupation qui est dirigée par Monsieur Dagalo, hein, Hemeti, qui est l'agent, je dirais, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Donc il y a eu des pressions occidentales aussi certainement américaines et européennes sur l'Arabie et sur les Émirats arabes unis, mm-hmm, pour leur faire lâcher prise dans certaines mesures dans cette pour un accord qui est un accord, à mon avis, provisoire.
Hein, oui, vous nous dévoilez les coulisses, justement, de cet accord conclu vendredi dernier. En deux mots, Marc Lavergne, diriez-vous que les militaires ont fait plus de compromis ou ce sont plutôt les civils ?
Je crois qu'il y a une affaire d'apparence dans tout ça, parce que l'accord tel qu'il a été décidé n'est pas tenable sur la durée. Les militaires ont accepté de partager le pouvoir, certes, mais ils s'arrogent quand même la présidence de ce conseil durant les premiers 18 mois. Quitte à laisser après, ou même 21 mois, et quitte à laisser après la présidence, si on peut dire, aux civils pendant 18 mois. Et tout ça, c'est une durée de 3 ans, c'est très long.
Effectivement. 3 ans et 3 mois, hein, pour être précis, la durée de cette transition au Soudan. Merci beaucoup, Marc Lavergne, d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à cet auditeur Hamid, qui nous appelait donc d'Abéché, au Tchad. Bonjour Hugo Moissonnier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des envoyés spéciaux du service des sports de RFI en Égypte. Vous nous permettez de vivre au quotidien la Coupe d'Afrique des Nations. On vous a appelé ce matin car on a reçu quelques questions, enfin quand je dis quelques, j'ai envie de dire des dizaines de questions concernant l'élimination des Léopards. Vous pouvez sourire, Hugo, vous étiez à la présentation, au commentaire de ce match République démocratique du Congo-Madagascar. Fidel, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Libreville.
Bonjour à tous les éditeurs.
Vous êtes au Gabon, oui, mais vous êtes congolais. On vous écoute.
Oui. Dimanche dernier, nous avons assisté à un match opposant Madagascar et la RDC. Et la RDC a perdu à cause d'un pénalty non sifflé. Pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé ce pénalty ?
Ah, Hugo Moissonnier, les Léopards et les supporters congolais accusent l'arbitre de ne pas avoir sifflé un pénalty en fin de partie. Que faut-il en penser ?
Alors, effectivement, ce pénalty, il a fait couler beaucoup d'encre chez les supporters, chez les joueurs, chez l'entraîneur Florent Ibengué. Ils n'ont pratiquement parlé que de ça au sortir de cette rencontre lorsqu'on les a interviewés en zone mixte. Je trouve l'argument un petit peu faible, un petit peu léger. Alors certes, ce pénalty, cette faute, en tout cas cette faute présumée par les supporters congolais sur Bolassier en fin de partie, aurait pu être sifflée, elle ne l'a pas été. L'arbitre est quand même souverain dans ses décisions. Son attitude globale a été critiquée par les Congolais, l'attitude globale de l'arbitre qui aurait été arrogant. Florent Ibengué et Youssouf Mouloumbou, le capitaine des Léopards, pointaient également un but qui aurait été inscrit en position de hors-jeu, le deuxième but malgache inscrit par le capitaine des Baréas Fanev Ima. Je trouve l'argument un petit peu léger, tout simplement parce que la République démocratique du Congo n'a pas livré une excellente partie à Alexandrie. Elle a été menée deux fois au score. Elle a vraiment pris l'ascendant sur cette rencontre qu'en fin de partie et durant les prolongations. Quand on sait la différence de standing, entre guillemets, entre les deux pays, c'est un petit peu léger. Et globalement, les Léopards n'ont pas réalisé une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Se retrancher derrière l'arbitrage me semble être un petit peu léger pour expliquer la déroute, en tout cas l'élimination de la République démocratique du Congo.
D'autant Hugo Moissonnier, en toute honnêteté, Madagascar a fait sensation.
Madagascar a fait sensation. Madagascar a notamment très bien joué durant la première période, dominant largement le milieu de terrain congolais. Il y a de la technique du côté de Madagascar, des bons joueurs de foot. Ibrahim Amada, par exemple, auteur de l'ouverture du score, une magnifique frappe qui montre qu'il y a du football du côté de Madagascar. Madagascar a mené deux fois au score. Madagascar avait bien travaillé ses tirs au but, et oui, ça peut faire une différence. 4 sur 4 du côté des barrières, ils étaient magnifiquement tirés, alors que du côté des Léopards, on en a envoyé deux dans les nuages. Et puis Madagascar avait battu le Nigeria, Madagascar avait tenu tête à la Guinée, Madagascar avait battu le Burundi. Le parcours de Madagascar, il est tout simplement davantage brillant dans ce Coupe d'Afrique des Nations.
Parcours
que celui
incroyable.
De la
RDC. Et on en parlera dans 10 minutes juste après le journal avec les auditeurs qui souhaitent revenir évidemment sur la qualification des Malgaches. Merci Hugo Moissonnier. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.